une situation sociale, pour une justice sociale, vivre et travailler dans notre pays. Alors c'est en créole bien sûr, et c'est les Réunionnais aussi qui revendiquent de pouvoir travailler au pays. Voilà, c'est en plein défilé du 1er mai à Saint-Denis de la Réunion.
C'est le 1er mai. Debout, camarades. Déjà l'avenir se laisse entrevoir. Ayons confiance. Après l'après-vert, le printemps s'avance, chassant les corbeaux au triste vol noir. C'est le 1er mai. Marchons, camarades. Les jeunes rameaux sont couleur d'espoir. C'est un texte de Gaston Couté de 1911 et pour tous les AMG et pour l'équipe de la Bassie, j'y suis bien sûr, pour fêter ce 1er mai. Salut.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. En grève depuis 2 jours, nous salariés de Nice Residencia à Nice, avec la CGT d'une maison de retraite à Nice du groupe Bellage en face de la gare. Pour refuser le licenciement de notre collègue Audrey Fior, pour ne pas accepter la sanction de notre collègue Sylvain Garrillo, pour continuer à revendiquer l'amélioration de nos conditions de travail, pour défendre une qualité d'accueil pour les résidents. Nous remercions les camarades et les personnes venues nous soutenir. Merci. Voilà, je vous remercie.
Bonjour Daniel, je suis doublement touchée. En écoutant ton émission de mardi 3 avril, je suis salariée et déléguée syndicale à Renault-Billancourt. Merci pour la famille de notre collègue qui s'est pendue avec Léon. Nous nous battons chaque jour pour faire face à une direction sauvage. C'est une entreprise de fous. Je suis aussi voyageuse, sac à dos. J'ai passé 4 semaines l'année passée au Bangladesh. Je n'ai pas vu les usines de textiles, mais j'ai passé du temps dans des chantiers navals. J'ai vu l'insupportable, sans jamais être une touriste, mais une témoin. Merci Daniel pour cette émission d'aujourd'hui mardi. C'était Marie.
Oyez, oyez, ce 1er mai, le Dersim est fermé. Le repère de Annecy Métais se tiendra donc exceptionnellement au boulodrome d'Annecy, en marge du repas citoyen d'après-manif de 14 à 16 heures. On y développera les pièges de l'ANI sous le titre « L'ANI, une loi qui sent le sapin pour les travailleurs ». Excellent jeu de mots au passage, car cette loi va s'appeler la loi Sapin. Bon, enfin bref. Notez le rendez-vous, mercredi 1er mai, 14h, au boulodrome d'Annecy, boulevard du Fier. Qu'on se le dise et répète.
Bonjour Monsieur Mermet, nous sommes le 30 avril, je viens d'entendre votre émission sur l'industrie textile au Bangladesh. Il y a 25 ans, j'ai fait un DEA, droit international de l'économie et du développement. On nous expliquait à l'époque que la destruction de l'industrie textile de la France, du nord de la France, est transférée en Asie du Sud-Est, dont l'Inde et le Bangladesh avaient pour objectif d'aider ces pays en voie de développement à vivre mieux. Ce que je trouve catastrophique, c'est cette exploitation de ces pays pour lesquels on paie les produits très chers en France. Maintenant, ça se passe aussi au niveau européen, avec le dépouillement financier de l'Europe. Grèce, Chypre, et aussi la France, hein, et puis l'Espagne, etc. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? On a détruit l'industrie textile, on a détruit la sidérurgie, la métallurgie, on détruit l'agriculture. SOS, voilà.
Dans l'émission de lundi, on a expliqué comment, en 1945, l'idée d'un État responsable du bien-être de ses citoyens s'était imposée en Angleterre et en France. Et puis depuis 30 ans exactement, l'État se déresponsabilise petit à petit en laissant de plus en plus à chaque citoyen la charge d'organiser sa protection sociale. Voilà une histoire vraie et toute récente qui illustre cela. Marcel est un pépé de 80 ans qui vit avec 680 euros par mois malgré une longue vie de travail. Il rentre chez lui après 8 mois passés dans une clinique de rééducation pour plusieurs pathologies lourdes. Avec le compte-rendu médical, je tombe sur une lettre de la clinique qui lui réclame plus de 4000 euros pour le forfait hôtelier, apparemment non réglé. Avant 1983, on ne lui aurait rien réclamé, car le forfait hôtelier n'existait pas. Il a été inventé sous le gouvernement Mauroy par son ministre des Affaires sociales, Pierre Bérégovoy. En 1983, le forfait hôtelier était égal à une heure de SMIC. En 2013, 30 ans plus tard, il a été multiplié par 6 à 18 euros, alors que le SMIC horaire n'a été multiplié, lui, que par 3, 9 euros et des poussières. Même si les services sociaux trouvent une solution pour que la clinique qui appartient à l'énorme groupe privé Medica France touche son argent, je ne peux oublier l'obscénité totale de ce courrier adressé à un vieux, pauvre, complètement dépassé par tout ça, qui a continué à payer son loyer pendant ces 8 mois et qui, chez lui, se nourrit certainement pour moins de 5 euros par jour.
Merci pour tous ces messages en ce jour de la fête du travail. Vous dites fête du travail ou vous dites fête des travailleurs? Là, il faut choisir son camp, camarade. La fête du travail, c'est Vichy, c'est Pétain, et c'était même Hitler, la fête du travail. Et vous vous souvenez, Sarkozy, avec sa fête du vrai travail? Alors voilà, ça c'est un camp. Et puis, il y a l'autre camp qui est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Et c'est tout à fait différent, la fête du travail et la fête des travailleurs. La fête des travailleurs, c'est 1886, c'est Chicago, c'est High Market, c'est 1891, c'est Fourmis. Et oui, il faudra raconter un jour cette histoire du 1er mai sur la longueur. C'est le triangle rouge. À l'époque, on avait inventé un triangle rouge à trois côtés. Un côté, c'était le loisir, un côté, c'était le sommeil, et l'autre côté, c'était le travail. C'est une très, très longue histoire, mais aussi une très longue lutte entre la fête du travail et la fête des travailleurs. Aujourd'hui, c'est aussi bien la célébration du Front National que la fête aussi pour les syndicats qui célèbrent la fête des travailleurs. Alors aujourd'hui, le 1er mai, ce sera le 5 mai, ce sera dimanche prochain. Mais je me suis dit qu'il faudrait inventer un jour de fête des héros ordinaires. Ça nous manque. On a toutes sortes de fêtes dans ce pays. Mais les héros ordinaires et oubliés. Voilà, il faudrait inventer la fête des héros ordinaires et oubliés. Et parmi eux, parmi ces héros ordinaires et oubliés, je mettrais Arthur Friedrich. Ça vous dit rien du tout, voilà. C'est un héros ordinaire et oublié, Arthur Friedrich. Il aurait 100 ans cette année. Et c'est avec lui qu'on va passer cette heure. Arthur Friedrich, je l'ai rencontré en 1996. C'était dans un train en Espagne, entre Albacete et Barcelone. 1996, c'était le 60e anniversaire des brigades internationales. Et des anciens des brigades étaient venus du monde entier à Albacete, en Espagne, à Barcelone. Et parmi eux, il y avait ce vieux Suisse Arthur Friedrich. Ce 1er mai lui est dédié et à la mémoire des héros ordinaires et inoubliables. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis. En ce 1er mai, fête des travailleurs.
Bonjour à tous. Le prochain café repère de la Bastille J'y suis de Montluçon aura lieu samedi 4 mai à 18h à la Pinte d'Étain. À la veille du 5 mai, le thème sera le balai. Chacun pourra donner son coup de balai. On vous attend donc samedi 4 avec vos idées et votre balai à 18h à la Pinte d'Étain, 1 rue Porte Saint-Pierre à Montluçon. Et n'oubliez pas, là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Salut les AMG, c'est le repère ternésien de Montchy-Breton qui aura lieu ce jeudi 2 mai au café Tartousse et compagnie à partir de 19h. Au lendemain de la fête des travailleurs et des travailleuses, l'heure est au bilan. Bon 1er mai, Fabienne de Montchy-Breton.
C'est la femme fusée qui vient de s'envoler avec ses tuyères en acier. La 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 la, Madame Rêve, Madame Rêve, la la la, Madame Rêve.
Salut, un petit rappel que le café repère de Perpignan aura lieu comme tous les premiers jeudis du mois. Ce jeudi 2 mai à 18h30 au Café du Centre, à l'angle de l'avenue du lycée Arago. Nous poursuivrons notre réflexion sur le manifeste à présenter aux candidats aux prochaines élections municipales. Venez donc nombreux. À bientôt. Au revoir.
Le jeudi 2 mai à Alban, au Café chez Marco à 20h30, le Café Repère se réunit avec pour sujet la gestion des déchets. Suite au projet d'implantation d'une usine de compostage industriel sur la commune de Poligné, la question du recyclage de nos déchets sociétaux est posée. En tant que consommateur, vos suggestions sont attendues au Café Repère d'Alban, chez Marco, le jeudi 2 mai à 20h30. Merci.
Oui, c'est Antoine, place de la préfecture. Donc c'est la fin de ce défilé du 1er mai avec un petit podium, avec marqué non à l'ANI, oui au progrès social. Donc c'est le podium de la CGTR, CGT Réunion. Et on est juste en face du buste en bronze de Maë de la Bourdonnais. Donc Maë de la Bourdonnais, un sinistre personnage, commandant des armées navales du roi dans les mers de l'Inde, gouverneur général des îles de France et de la Bourdonnais. Et c'est devant l'effigie de ce sinistre personnage qui a été recouvert de banderoles pour la préférence régionale et pour la justice sociale et pour vivre et travailler dans notre pays, que se termine ce cortège du 1er mai pour plus de justice sociale contre l'ANI et pour le progrès social. Ciao, ciao.
Celle-là, vous la connaissez?
Oh, je connais toutes. C'est dommage que je n'ai plus de voix pour chanter.
C'est en français, là.
De base, nous sommes, nous soyons toujours. C'est la lutte finale. Nous et demain, la terre, je ne peux pas, sera le genre humain. La lutte finale, groupons-nous, c'est demain. La terre nationale sera le jour. Mais je ne peux plus chanter. Alors, quand la concentration ne me donnait rien, j'allais boire de l'eau à la fontaine pour donner le sein à ma fille.
Arriva España!
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, j'y suis en Espagne avec les anciens des brigades internationales.
Flight number 2, arriving from New York.
Compañeros y camaradas de las brigadas internacionales y los pocos españoles que hoy nos encontramos aquí.
Avec les anciens des brigades internationales, Alba, c'était un vieil espagnol. Rend hommage à ses vieux compagnons, toujours vert,
avec la section Telma, toujours avec des Allemands. Il expliquait avec évidemment beaucoup d'émotion qu'il ne les comprenait pas, mais il avait beaucoup appris d'eux parce qu'il faisait tout ça avec beaucoup de tendresse et beaucoup de foi.
Vous avez beaucoup d'énergie et votre discours était très énergique.
Mais toi, tu brilles émotionnel.
Je suis un peu ému.
Je les hubiese querido decir, pero no me gusta alargar las cosas.
Je n'aime pas rendre les choses trop longues.
Mais quel âge avez-vous, monsieur?
Voy a hacer ahora 83 años.
Je vais avoir 83 ans.
Dans deux mois, me faltan. A primero de año, 83.
Dans deux mois, j'aurai 83 ans.
Vous êtes en forme, hein? Qu'est-ce que vous pensez en ce moment de retrouver tous ces brigadistes, tous vos amis?
He vivido dos años con ellos.
Moi, j'ai vécu deux ans avec eux.
Bien, allez, j'étais voluntario con ellos.
Moi, j'ai fini par m'enrôler en tant que volontaire avec les brigadistes.
Es que nos hacía falta quitar aquello que teníamos, que no vivíamos.
On avait besoin d'eux, ils devaient nous aider à enlever ce mal qu'on avait chez nous.
Solo vivían los grandes terratenientes, los que tenían dinero, los pobres. Malamente podíamos ni estudiar ni siquiera.
La situation en Espagne à l'époque était terrible, seulement les grands propriétaires de terres pouvaient vivre, les autres ne pouvaient ni étudier ni manger quasiment.
La libertad y la democracia es cuando vivimos todos bien. Aquí tengo un nieto que está estudiando y es ingeniero. Antes no podía ser. Su abuelo, que soy su abuelo, yo no pude conseguir nada, nada, nada más que lo que he podido aprender por esos mundos.
Vous voyez, moi je suis grand-père, j'ai un petit-fils avec moi, eh bien il est ingénieur. Moi j'aurais jamais pu faire ça.
Me lo he traído para que vea el ambiente de todo esto.
J'ai voulu l'emmener avec moi, je voulais qu'il voit tout ça et je voulais qu'il sache.
A mí las brigadas internacionales me han enseñado mucha vida.
Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup avec les brigades internationales.
El todo.
Les cloches des bêtes peuvent sauver la révolte. C'est l'organisation seulement qui peut sauver la révolution.
La vida continua.
Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito. Deberás cruzar el Ebro en un barquito de vela.
¡Vale!
Hemos hundido las banderas italianas. Se han hundido las banderas italianas. Y en el puente solo quedan las que son republicanas. Y en el puente solo quedan las que son republicanas.
Petit promenda a Elche, Alicante. Ou à les belles jeunes filles qui nous ont pris comme des bons dieux. On avait un tel idéal, moi, je n'ai pas osé les toucher. Ils nous prenaient tous comme des Russes. Et quand on a dit qu'on n'est pas russe, elles étaient déçues.
Madrid, Albacete et Barcelone, hommage aux anciens des brigades internationales, 60 ans après, en Espagne, où 300-400 survivants, 60 ans après, donc des gens qui ont autour de au moins 80, sont revenus retrouver leurs 20 ans. Ils avaient 20 ans en 1936 et ils venaient, gens de peu, ouvriers, petits, sans grade, des quatre coins du monde, 50 pays, pour lutter contre le fascisme, contre les inégalités, pour la liberté, pour la démocratie. On sait ce que fut cette guerre aujourd'hui, qui appartient évidemment à l'histoire. Il faut rappeler que le 17-18 juillet 1936, c'est le soulèvement militaire franquiste, disons, pour simplifier, contre la République espagnole et son gouvernement de Front Populaire. Une guerre civile qui va durer 3 ans, avec des affrontements d'une violence inouïe entre le camp républicain et les insurgés fascistes. Chaque camp sera soutenu par des puissances étrangères. Chaque camp sera diversement soutenu. Un conflit qui sera marqué par des massacres de civils très durs, avec aussi des affrontements entre anarchistes et communistes. Le tout a laissé dans la conscience, dans la mémoire espagnole, un profond, très profond traumatisme. Les séquelles sont encore sensibles dans ce pays. Mais pour le monde entier, la guerre d'Espagne a été un des grands symboles de ce siècle. Personne à l'époque ne pouvait, ne devait, n'est resté neutre, n'a cru avoir un œil étranger à ce qui se passait là. Et la guerre d'Espagne a révélé et fondé la sensibilité politique de dizaines de millions d'hommes. Aujourd'hui, souvent sans même le savoir, nos sensibilités politiques doivent beaucoup à cette épopée tragique. Mais ce qui nous a intéressé, évidemment, c'est les hommes et les femmes. Il y avait des femmes dans ces brigades internationales. Vous avez entendu Rosa, cette infirmière, chanter très émue l'international. Et là, on va prendre avec eux le train d'Albacete à Barcelone. Albacete, c'était une des bases des brigades internationales. C'est là que c'était l'état-major, c'est là que ça se passait, c'est là qu'on arrivait, c'est là qu'on s'entraînait. Et qu'ensuite, on partait plus ou moins bancal, plus ou moins expérimenté au front. Ces combattants, entre guillemets, pour la plupart, n'étaient pas des militaires. Certains avaient fait la guerre de 14, s'étaient battus un peu, mais la plupart avaient une idée qui était de lutter contre le fascisme. Et là, on va les suivre, on va prendre ce train jusqu'à Barcelone avec eux, et évidemment, sur le quai de la gare d'Albacete, c'est l'émotion, c'est les adieux. Ils ont... ça fait 60 ans, donc certains reviendront sans doute, mais pas tous. Gare d'Albacete, départ des vieux brigadistes pour Barcelone, avec tous ceux qui les ont accueillis ici et qui viennent, qui sont venus leur dire adieu. sur ce quai. Alors, gracias, il y a des jeunes avec des grands panneaux, gracias, pour les remercier, il y a des gens qui leur apportent des fleurs. C'est un peu le bazar, c'est un peu la panique. Et on va monter dans ce train.
Coches 3 à 8. Para las sillas de ruedas,
drapeau républicain sur le quai.
El coche número 3.
Des adieux entre des vieux brigadistes et des tout jeunes gamins.
Hablando mucho.
On peut vous demander, vous vous êtes rencontrés là, exceptionnellement?
Oui. Oui, oui, on s'est rencontrés là. Je suis prof de français ici. Et...
ici, Albacete?
Oui.
Et vous avez rencontré le vieux brigadiste?
Oui, ici.
Ils ne reviendront plus?
Hein?
Ils ne reviendront plus?
Je pense pas.
Steve Fullarton chante.
Vous dites au revoir, vous êtes très jeune.
Ouais.
Quel âge vous avez?
22.
Et pourquoi vous êtes ému comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi ému?
Parce que je les admire beaucoup et je les aime beaucoup pour moi. Ils sont en face, je les ai connus et j'ai connu qu'ils sont fantastiques.
Et c'est pourquoi vous avez 22 ans, c'est fini cette histoire-là, non? Vous y croyez encore?
Ce n'est pas fini.
Je rogue à los señores acompañantes de los brigadistas. Se retiren un poco de las puertas con el fin de saber si están todos en el tren.
No, no, José Luis.
Mi amiga.
Que no se puede bajar. Yo, el Fred, vive en another wagon. Voy más de 6 en el coche. Kelvin, another wagon.
Good Carnell.
Sí, sí.
D'où êtes-vous? D'où venez-vous?
I'm from London.
Vous êtes avec vos décorations, le béret, l'étoile rouge, etc. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment?
What are your thoughts right now?
I don't know. They're all everywhere.
Elles vont n'importe où en ce moment.
I've never received such a reception in my life.
C'est la première fois que je reçois une telle réception dans ma vie.
It's really wonderful.
Un tel accueil, c'est merveilleux.
C'est automatique à la porte, hein?
Todo personas, muchas gracias.
Vous, on est en train de traverser des paysages que vous avez traversé il y a 60 ans.
Ça n'a pas changé là. Là. C'est le même paysage. Les villes ont changé. Les villes l'ont, on les reconnaît. Tout neuf, tout autre, tout moderne. Et là, ça n'a pas changé, vous voyez. C'est exactement la même chose. Les terrains vagues, soi-disant, on a l'impression que c'est tout des terrains vagues. Mais là, il y avait du blé, là. Vous voyez, maintenant c'est sec, ça. Avec
les airplanes, les airs.
Qu'est-ce que vous ressentez au cours de ce voyage?
C'était joli, c'était une bonne impression, mais on est un peu triste que beaucoup de bons camarades et beaucoup d'amis ne sont plus là.
Ouais.
On aurait aimé les revoir là, voir le vino tinto d'Espagne et puis dire les souvenirs, les bêtises, toutes sortes qu'on s'est racontées ici. Quand il n'y avait pas fumé quand les gris, les paquets gris, les cubes là, que les Français envoyaient manquaient pour rouler une cigarette.
Le gris,
tabac gris.
Oui,
ça manquait. On prenait des herbes sèches là.
Des herbes, on fumait de l'herbe.
Des herbes, avec des bouts de papier journal, on roulait des cigarettes. Fumait un peu, ça piquait un peu la langue. Mais tous ces copains sont plus là. J'ai reconnu là dans le groupe américain, je ne sais pas où, j'ai reconnu un type de visage, il me semblait. Mais moi, je me suis rappelé de lui, mais il aurait fallu avoir les photos de jeunes. On était gamins à l'époque, 23 ans, j'étais avec une photo de gamin.
83 ans, Arthur Friedlich, il s'appelle, il est suisse. Et quand il avait 23 ans, 1936, il a rejoint les brigades internationales. 40 000 se sont engagés, communistes en majorité, mais pas que communistes, à rejoindre ces brigades qui se sont forgées en Espagne pour lutter contre le fascisme après le coup d'état militaire, le soulèvement militaire de juillet 1936. On sait qu'il y a eu le contingent le plus important a été le contingent français, de 10 à 15 000 Français ou venant de France se sont engagés dans ce combat, 5 000 Allemands et Autrichiens, 3 350 Italiens, 2 800 Américains, 2 000 Britanniques, dont le héros de Land and Freedom, et il y a eu aussi des Chinois. Oui, il y a eu 2 Chinois qui sont venus de Chine. Quand on imagine ce que pouvaient être les difficultés pour se déplacer à l'époque, ça a été évidemment une aventure formidable. Liz London, l'épouse d'Arthur London, qui est dans ce train, nous dira « Notre passé est riche d'avoir voulu changer le monde. » Mais la question est toujours la même. Comment avoir la foi sans avoir la religion ? On va passer ce voyage, un bout de ce voyage, avec Arthur Friedlich, qui avait 23 ans en 1936.
La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Del día 6 de febrero nos tenemos que acordar que entraron los españoles en la plaza de Tetuán. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Centinela, centinela, centinela de Serrallo, alerta, alerta, que vienen los moritos de a caballo. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán.
¿Por qué habéis rejoint les brigades à l'époque?
Je suis antifasciste.
Un Suisse antifasciste.
Antifasciste, oui. Il y en avait en Suisse. Il n'y a pas que les communistes. Ils sont dans les brigades, et les socialistes, et les je sais pas quoi. Antifascistes, c'est tout.
Vous faisiez quoi à l'époque? Vous étiez un intellectuel, un étudiant, un travailleur? Vous étiez quoi?
Non, j'ai appris relieur. Métier de relieur. Encuadernador, en espagnol. C'est un métier grève de faim. Mais après, il y avait...
Vous vous souvenez du jour où vous avez décidé de partir?
Oui, en novembre 1936, quand on a lu les premiers articles dans les journaux sur les brigades internationales devant Madrid, dans le site universitaire qui ont stoppé les franquistes. Et quand j'ai lu ces articles sur les journaux, on avait dit, tiens, on va aussi là-bas, on se rend les copains. Et le 16 décembre 1936, je suis parti de Burtorf, c'est dans l'Emmendal, près de Berne. Je suis parti.
Seul?
Oui. J'avais une adresse de Villeurbanne, par des connaissances, par le téléphone arabe, par le petit doigt qui me disait. Une adresse Villeurbanne à Lyon, où il y avait les camarades, c'est tout communiste là-bas. Alors ils m'ont demandé dans quelle section tu es en Suisse. Je n'ai pas dit pas de section, comme si j'étais un peu déçu, mais on était camarades tout de suite avec les Français. Pour moi, mon deuxième pays, c'est la France, à part la Suisse. Avec les Français fantastiques. Les Français, des mineurs du Nord, connu un mineur du Nord, un héros de la résistance que j'ai connu en Espagne, Julien Apio, qui venait de Grenet, pas de Calais. Il m'a donné l'adresse quand on s'est dû quitter parce qu'on était retiré en 38. Fin 38, on était retiré. Alors j'ai dit au revoir à Julien Apio, c'est un mineur du Nord, Grenet. Il m'a donné l'adresse, je l'ai encore dans la tête. Cité du Maroc 623, Grenet, pas de Calais.
60 ans.
Julien Apio, mon camarade. On a écrit, il y avait la guerre, et après, quand l'Allemagne avait occupé, j'ai plus écrit. Plus tard, j'ai appris, après la guerre, j'ai réécrit, et puis j'ai reçu la réponse, la même adresse. C'est les parents qui ont élevé ce Julien Apio, m'ont écrit, j'ai la lettre à la maison. Ce Julien Apio, en Espagne, il était dans la première bataille de Teruel, dans le bataillon Tchapaïev, grâce à la France. Et quand j'ai connu Julien Apio, on était frères. Il ne parlait pas l'allemand, mais je parlais français avec lui. La lettre que j'ai reprise après la guerre, ils m'ont écrit que ce Julien Apio était dans les FFI. Un jour, quand il est allé à Paris chercher des nouvelles, parce que ceux du Nord, les mineurs, paraît qu'ils n'étaient pas toujours d'accord avec ceux de Paris, surtout concernant le pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov. Il y a eu des tensions, il y a toute une histoire tragique là-dessous. Là.
Oui.
La mémoire d'Aix, ça vous dit quelque chose, la mémoire
d'Aix?
Tout à fait.
Quand j'ai vu ça à la télé française, il y a 200-300 ans, je n'ai pas dormi une nuit, deux nuits. Et pas que croire qu'on a pu faire des saloperies pareilles. Tuer les propres camarades, les meilleurs, pour respecter une ligne de parti.
Vous étiez...
Est-ce que j'étais heureux de ne pas être du parti communiste, parce que j'aurais été un condamné à mort aussi. À ce moment-là, j'ai pu ça. Alors, il m'a écrit ses parents. Il était à Paris pendant l'occupation, capitaine de FFI, cherchait les nouvelles, les paroles donc de passage. Et il était arrêté à Paris, vendu par des traîtres du propre parti, je ne sais pas. Ce n'est pas prouvé. Toutes les explications sont possibles, toutes les suppositions. Il était fourni aux Allemands à Arras, dans l'hôtel de ville. Dans la grande salle d'Arras, Julien Apio était condamné à mort avec d'autres. Et il était fusillé le 23 septembre 1943 dans les citadelles d'Arras. J'ai pris ma voiture et ma femme, j'ai dit, viens, on va voir. Excusez-moi. On est parti à Arras, Lens. Arras, j'ai demandé où sont les monuments des morts. Et j'ai vu, il y avait une plaque de marbre, chaque plaque, il y a 4 noms. Et on a cherché les plaques, j'ai trouvé Julien Apio, fusillé ce 36, avec une institutrice et deux autres mineurs, qui étaient le même jour condamnés à mort à Arras et étaient fusillés là. J'ai pleuré.
Varias de la tierra, en pie famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros.
nuestro del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abrujémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Abrujémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional.
¡Viva la revolución!
¡Viva!
¡Viva el fascismo!
Finalement, si je comprends bien, vous n'avez jamais été communiste.
Non. Communiste, on est avec les communistes, avec les socialistes, on était internationaliste. À la maison, on n'allait pas à l'église, mais on avait à l'école, on avait l'éducation de, publique et tout à l'école. Quand on était tout petit, on a cru à toutes ces histoires, ces fables, qui sont certaines fables de la Bible, ont une certaine valeur éducative pour les petits, qui restent braves, qui aiment les parents, qui estiment. Ça, c'est valable pour tout le monde. C'est aussi, ça, dans les 10 commandements, il y a des choses qui sont valables pour chaque communiste. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer. Alors, c'est quoi? C'est l'humanisme. C'est l'humanisme que le communisme, humanisme, communisme. C'est la même chose.
Et le stalinisme là-dedans?
C'est une tragédie terrible pour nous, messieurs. Chaque fois, je ne peux pas expliquer cette tragédie qu'on a vécue quand on a su tous ces saloperies, que ce vieux con qui est venu fou et fasciste, notre fascisme, Staline, et après Brejnev, que ces cons-là qu'on fait, ils ont détruit le mouvement mondial, ouvrier mondial, combien de fois? Tous ces mecs, tous ces vieux cons qui ont régné à Moscou. Puis c'était notre grand espoir avant la guerre. 10-20 ans après la guerre, on n'a rien encore pas su. Tout d'un coup, on a su l'aveu de Prague. Arthur London, comme ils l'ont torturé à Prague pendant les procès pour qu'il signe, pour sauver sa peau, pour qu'il signe une chose qu'il n'avait jamais fait. Après, on les a réhabilités.
Quand est-ce que vous avez appris? Quand est-ce que vous avez découvert?
Quand il y avait le film L'aveu avec Yves Montand, avec ses lunettes, qui jouait le rôle d'Arthur London, torturé, je me suis dit encore que salaud c'est Yves Montand, c'était pour moi un copain, salaud Yves Montand, il joue un rôle d'un contre-révolutionnaire. Et puis après ça m'a dit, non, je cherche le livre. On a passé des nuits sans sommeil, on a su des trucs, et je me suis plus occupé de politique pendant longtemps. On vit des terribles drames intérieurs de conscience. Il régnait encore sur la Russie, mais c'était un fasciste d'une autre forme, un fascisme d'une toute autre forme. Je finis pas à me libérer, à oublier tous ces saloperies. C'est incroyable. Des meilleurs copains qui ont toute leur carrière sacrifiée pour le mouvement ouvrier socialiste international ont été secoués, ont été trahis, ont été pendus. Puis après 10 ans plus tard, on les réhabilite. Moi, je ne marche plus. Je ne veux plus rien savoir du bureau politique, ni d'un comité central, ni d'un secrétaire central, ni d'un plénum, ni d'un congrès de parti, ni respecter aucune ligne politique, surtout pas d'un parti unique, etc. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Répéter des paroles d'un parti, qu'on voit tout de suite que c'est illogique, n'est-ce pas? Mais si tu ne les répètes pas, tu es condamné à mort. Vous avez vu le film? La mémoire d'Aix, là. Et ces gens étaient condamnés à mort par Torres et Duclos et par le comité central à l'époque en France. Les meilleurs communistes de France étaient tués par des communistes français.
Toujours vert et toujours rouge, à 83 ans, Arthur Friedli n'a pas abandonné, n'a pas renoncé à s'affronter à cette épuisante liberté. Ils étaient communistes, beaucoup étaient communistes. Il faut comprendre, d'ailleurs faut-il les excuser d'avoir été communistes. On est 20 ans après, à peine 20 ans après la révolution d'octobre, la grande lueur rouge qui s'était allumée à l'Est et le mythe soviétique s'installait dans les esprits, dans ces temps de crise qui frappaient l'Occident, chômage, misère, injustice, et toute une humanité souffrante qui recevait la propagande soviétique avec les belles kolkhoziennes qui pétaient la santé, les ouvriers fiers et musclés en train d'édifier à coups de faucille et de marteau tout un monde nouveau. Le monde allait changer de base et une grande religion laïque était née et beaucoup y croyaient. Tous, cependant, n'étaient pas communistes, c'étaient des petits, des sans-grades. Ils venaient, je l'ai dit, de plus de 50 pays. Ils étaient 35 000, 40 000. Et on sait comment Ernest Hemingway ou André Malraux les ont mis en scène, ont raconté leur histoire, qui se situe d'ailleurs exactement entre deux mots, deux titres, entre l'espoir et pour qui sonne le glas. Certains n'avaient pas attendu les consignes. Dès juillet 1936, il y avait à Barcelone, se sont tenues à Barcelone des Olympiades antifascistes. Parce qu'au même moment, à Berlin, Hitler étant au pouvoir, évidemment, se déroulaient des Jeux Olympiques. Et donc les démocrates, les antifascistes, avaient organisé ces Jeux Olympiques. Et dès le coup d'État du 17, le soulèvement militaire franquiste du 17 et 18 juillet, ils se sont portés, ils ont constitué d'une manière un peu empirique, évidemment, ces brigades internationales. Les autres, par la suite, sont venus dans des conditions très difficiles, sans argent, rencontrant l'hostilité de leur pays pour pouvoir sortir, refouler, emprisonner le long de la route, qui était très longue, et tout ça pour donner jusqu'à la dernière goutte de leur sang. C'était leur vœu, c'était leur courage. Et 10 000 ont donné leur sang pour la liberté, pour la terre, pour lutter contre le fascisme. Ils sont venus de tous les continents. Il faudrait faire attention, on va en faire des anciens combattants. Le gouvernement français va les reconnaître comme anciens combattants, mais il faut faire attention parce qu'à l'époque, la plupart étaient des sans-papiers. Mais c'était surtout, évidemment, des convaincus, des sincères, des hommes bien, qui ont un peu racheté ce siècle, l'un des plus monstrueux, comme on le sait, dans l'histoire de l'humanité. On continue ce voyage avec entre Albacete et Barcelone, avec ce héros, mais encore vivant, encore à l'échelle humaine, Arthur Fridley.
On est en train de traverser des paysages merveilleux. Hein.
Ça n'a pas changé. Vous voyez ces terrains-là comme ça. C'est exactement la même chose. Mais le train est électrique maintenant. C'était à vapeur. Puis ça allait pas vite. Puis ça, pendant des heures, ça restait sur place parfois. La nuit, on roupillait. Soit dans les trains ou dans les camions, on roupillait. C'est le manque de sommeil qui nous a presque tués. On revenait dans un état second, parfois par le faim ou par la soif ou par le manque de sommeil.
Est-ce que vous avez douté parfois partir?
Non, mais vers la fin. Après Teruel, quand on avait perdu Teruel. Et puis la bataille de l'Ebro était de nouveau un espoir. Et puis après, on a vu, c'est foutu. Quand on a vu cette aviation, des journées entières que des avions qui bombardaient. Puis nous, on n'avait plus rien. On n'avait plus d'avions, on n'avait plus rien. On ne voyait plus les tanks, on ne voyait plus les artilleries de notre côté. Tout comme moi, je n'avais plus vu. Alors là, j'avais compris, c'est fini, c'est foutu. Mais j'aurais eu honte. Même si quelqu'un m'aurait apporté un laissez-passer pour aller jusqu'à Perpignan à la frontière, je n'aurais pas été. J'ai eu honte. J'ai resté avec ceux qui commandaient jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on nous a retirés. On nous a retirés du front Sylvestre 38.
Et ça, Sylvestre 1938.
Ils ont dit, ce wagon-là, pour les Suisses, là, les flics français, là. Le wagon était fermé des deux côtés, et au bout du wagon, il y avait un flic français. Il était gentil, on rigolait avec lui. Il était assis sur son tabouret jusqu'à Genève. Nîmes, Béziers, dites-moi les villes, là. Perpignan, Béziers, Narbonne, Nîmes, Avignon, Valence, on roupillait. C'était l'hiver, on ouvre les yeux, il y avait 1 mètre de neige, c'était vers Grenoble. Lendemain à midi, on arrive à Genève, calme, enneigé, plus de guerre, plus de bombes. Comme maintenant dans le train, on arrive comme ça à Genève, on va les rues, là, les gens dans, se promener, tout le monde pied à pied, pas de vitres cassées. On revenait dans un autre monde. Je n'ai jamais oublié. Genève, la ville de mes rêves. Je suis allé dans le Suisse allemand, voir
chez mes parents encore, après on a fait tribunal militaire, prison, et après c'était la mobilisation, c'était 5 ans de service militaire en Suisse. Pendant la guerre, j'ai trouvé du travail mieux payé à Genève. Depuis 50 ans, je suis à Genève, j'habite Genève, mes trois garçons sont nés à Genève, sont genevois, et ils parlent français.
Est-ce qu'ils sont fiers de vous, les garçons?
Oui. Hein? Ils me disent, papa, parle pas des années 30. Tu pleures. Ils ne savent pas ce que c'est. Je leur ai raconté. Ils me disent, tu pleures. On a eu d'énormes pertes dans les montagnes de Teruel. Un jour sur le Mouleton, ça bombardait jour et nuit. Des copains morts par douzaines, tout partout. J'avais une chance terrible. Après cette blessure à Madrid, à Teruel, j'étais un des seuls survivants.
Qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on tue un homme?
Moi, j'ai jamais tué un homme.
Bah. Comment?
J'ai jamais tué un homme.
Comment ça? Vous avez fait la guerre? Combien de temps? 2 ans? 3 ans?
Je suis pas allé voir. Je suis pas allé voir là-bas s'il était mort. Et s'il était mort, c'était pas un homme, c'était un fasciste. Puisque nous, on n'était pas des hommes non plus. On était des cochons rouges de leur côté. Ah, pas mieux l'écriteau, là. Tout à l'heure, là, Albacete, un écriteau encore. Brigade internationale, assassinos.
Assassinos.
Oui, c'était marqué, là, sur un truc, là.
60 ans après.
Oui, là, on n'a pas vu. Pour eux, nous, on était des assassins. Et pour nous, le fasciste était l'assassin. Vous m'avez dit, tu es un homme. Si j'ai tué quelqu'un, je ne sais pas. Si j'ai tué quelqu'un, ce n'était pas un homme, c'était un fasciste. Mais au pape, à l'église, au curé, au prince des églises catholiques depuis des siècles, on ne leur dit pas qu'ils sont meurtriers. Combien ils ont tué dans l'inquisition? Combien ils ont tué en bénissant les armes? Tous les armes de monsieur étaient bénies par Rome. Franco n'a jamais été renié par le pape, ni avant ni après.
C'est désertique, il n'y a pas du tout d'habitation, il y a des olifiers
partout. Les arbres là, Almendros.
Almendros.
Amandier.
Des amandiers partout, ouais, amandiers, oliviers, des grands espaces magnifiques.
Pendant la bataille de l'Ebre, il y avait des vignes comme ça. C'était l'été, les raisins étaient déjà gros comme ça. Les raisins, personne ne les récoltait. Et puis il y avait des amandiers. Et je me rappelle pendant combien de temps, plus d'un mois, on a mangé ces gros raisins et des amandiers. Ouais. On recevait le pain et on n'attendait pas le garbanzos. Garbanzos, c'est les pois chiches qu'on avec. Garbanzos, c'est bacalao. Pois chiches et une espèce
morue.
De... Ouais, oui. C'était le menu pendant des mois et des mois, ça. D'autres ont eu du riz toujours. Mais nous, on a vécu avec garbanzos et bacalao. On ne l'attendait pas. On l'a mangé quand même. On prenait même du pois.
Ah oui. Est-ce que vous avez vu le film de Ken Loach, Land and Freedom?
Oui.
Alors?
C'est trop unilatéral. Ça,
pourquoi?
Ça se passe tout en Catalogne. C'est la fête des anarchistes et des boums de l'époque. Là, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais été. C'est leur affaire. Ça ne correspond pas à ce qui s'est passé ici à Madrid, ni dans les batailles de Brunete, ni à Teruel, ni... Il y a des choses, les discussions qui se ressemblent.
Ouais.
Différents points de vue. Il est pas mal le film, mais c'est pas mon film.
Aujourd'hui, quand vous entendez chanter l'international, est-ce que ça a encore du sens pour vous?
Oui. Oui, ça reste valable. Ça reste valable. C'est aussi une utopie, comme l'anarchisme est une utopie. Prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'était uniquement ici. C'était possible, on l'a vu, possible, avec Julien Appiot.
jamais connu mon frère. Voilà, une preuve, entre autres. C'est possible, mais ce n'est pas possible. Maintenant, on fait de nouveau du nationalisme partout. Prolétaire, tous les pays, ça n'existe. Ça n'existe pas. Ça, utopie. Comme les anarchistes, l'utopie sans loi. Sans loi, sans un ordre, tu ne peux pas. Ça n'existe pas de vivre en société. C'est la loi du chasseur plus fort qui va chasser.
Tout à fait. Mais est-ce que vous êtes toujours internationaliste? Vous êtes un internationaliste?
Oui, mais je sais que c'est un rêve. C'est un idéal, c'est un rêve. C'est toujours internationaliste.
Donc vous avez encore des rêves? Tous vos rêves ne sont pas morts?
Les rêves restent les rêves. Mais je me rends compte, malheureusement, il y a des rêves irréalisables. Pourquoi? Les hommes ont toujours été les mêmes, les hommes. Il y en a des qui montent, des meneurs, et une grande masse qui obéit, qui suit derrière, soit par lâcheté, soit pour avoir le pain, ou soit par sens d'obéissance, par sens de discipline, on ne sait pas. La bêtise humaine, ils suivent, ils croient, la plupart des gens, il leur faut toujours un bon Dieu sur terre. Le Pen va faire des lois, et à d'autres pays, la crise continue. Est-ce qu'il y aura de nouveau une situation comme en 1933, quand on doit choisir entre Hitler et entre la gauche et la droite, des pays entiers? On ne sait pas. Que pensez-vous? Le pire est à craindre. J'espère que, non, je compte sur les jeunes, qui auront appris avec l'histoire et qui iront dans la rue. Ils diront pas ça.
Ils ne passeront pas.
Ils ne passeront pas. Et ils ont passé. Maintenant, ces idées restent valables, comme idées, comme idéal. Julien Appiot m'a donné. Il m'a expliqué, Julien Appiot, il m'a expliqué à la Commune de Paris. J'ai appris la chanson. Madame Veto avait promis de faire écorcher tout Paris, de faire écorcher tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Ça ira, tous les fascistes à la lanterne. Et ça ira, tous les fascistes, on les pendra. Et si on les pend pas, on leur cassera la gueule. Et si on les pend pas. Alors, un Italien, il n'a pas chanté, et si on les pend pas. Il a toujours chanté, et si on les pend pas. Il dit papa. Et puis, je lui ai raconté, il rigolait, il chantait. C'était des moments. Plein de poules. On chantait des trucs comme ça. Et il m'a appris la Commune de Paris. Pour lui, Maurice Thorez, à l'époque, c'était le fils du peuple, le héros. Et après, qu'est-ce qu'on a appris après?
J'ai dit pauvre Julien, il va peut-être, si on ne sait pas le dire. Et je suis sûr, il était trahi à Mars. Ce Julien était trahi à Paris parce qu'il n'était pas d'accord avec Ribbentrop, avec le Staline. Il n'était plus d'accord avec le comité central du parti. C'est malheureux à dire aux Français, mais je vous raconte les constatations que j'ai faites.
C'était Les Brigades Internationales, nouvelle version d'un reportage de Daniel Mermet, diffusé pour la première fois en 1996, une émission en hommage à Arthur Friedlich et aux anciens des Brigades Internationales. Merci à Christina Figueras pour sa traduction. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à franceinter.fr, rubrique programme, émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique, aujourd'hui, Gaël Braouzek et Hélène Langlois, Lucie Acoun et Franck Adhérère ont réalisé cette émission préparée par Grégory Salomonovitch. Et c'est Marion Dupas qui attend vos messages au 01 56 40 37 37. France Inter, partenaire du festival Nuit Sonore du 7 au 12 mai à Lyon. Pour sa 11e édition, Nuit Sonore, le festival des cultures électroniques et indépendantes, invite Buzzy P, Breton, Nursey with Wand, Lumériance, The Monsters, Benoît Sergio, KXP, Planetary Asso Systems, Annika, Civil Civic. Le meilleur du son électro et indie s'installe à Lyon. Retrouvez le festival Nuit Sonore dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. À suivre, Frédéric Lodéon, bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations avec Maxime Deps.
De Madrid à Athènes, c'est une Europe frappée de plein fouet par le chômage qui continue de descendre dans la rue en ce 1er mai contre les politiques d'austérité et pour davantage de mesures en faveur de l'emploi. En France, les mécontents défilent également en ce moment même à Paris, ce matin à Toulouse ou encore à Lyon, et ce en dépit d'un front syndical divisé entre une CGT qui attend un cap différent de la part du gouvernement et une CFDT qui prône davantage la patience. François Hollande, lui, assure que son objectif premier reste d'inverser la courbe du chômage. Marine Le Pen estime qu'il est déjà trop tard dans une France enfermée dans les ténèbres de l'Europe. La présidente du FN a conduit de son côté ce matin le traditionnel défilé frontiste vers la statue de Jeanne d'Arc à Paris. Un an après l'arrivée de François Hollande, elle remarque, dit-elle comme le peuple, que rien n'a changé, que le pays traverse toujours le même tunnel. Également dans le cortège frontiste ce matin, le député FN Gilbert Collard est revenu sur l'histoire des 500 000 euros découverts sur un compte appartenant à Claude Guéant. L'ancien ministre se défend. Il maintient que cet argent provient de ventes de tableaux anciens et qu'il n'a rien à voir avec un quelconque blanchiment. Gilbert Collard dit attendre une enquête sereine, mais évoque tout de même une grave odeur de suspicion. Autre affaire révélée par le magazine Le Point et qui continue de faire parler, elle concerne cet appartement de 280 mètres carrés à Paris, acquis par Thomas Fabius, le fils du ministre des Affaires étrangères, en juillet 2012, sur l'une des artères les plus huppées de la capitale. Montant de la transaction, 7 millions d'euros. La cellule de renseignement financier Tracfin s'intéresse au dossier. Le Point se demande notamment comment le fils du numéro 2 du gouvernement, qui ne paie pas d'impôt sur le revenu, a pu acheter un tel bien sans que les services de Bercy cherchent à en savoir plus. Quand Arnaud Montebourg fait reculer Yahoo, le groupe internet américain a renoncé dernièrement à acquérir le site français de vidéos Dailymotion, et ce devant l'opposition du ministre du redressement productif. Arnaud Montebourg, qui n'aurait pas supporté que Dailymotion, ce joyau de la high-tech française, passe entre des mains étrangères. À ce jour, France Télécom détient la totalité du capital de Dailymotion, mais le groupe souhaite réduire sa participation dans le site de vidéo. Enfin, une épidémie qui cause bien des soucis dans une dizaine de régions en ce début mai. Et les médecins ont pu constater dans leur cabinet une recrudescence des cas de varicelle. Selon le réseau de surveillance Sentinelle de l'INSERM, la maladie a touché fortement la semaine dernière la Picardie, avec 300 cas sur 100 000 habitants. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Centre, la Corse, le Languedoc-Roussillon ou encore l'Alsace ne sont pas non plus épargnés.
tous les dimanches,
okay.
À 20h10,
ben voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La voix est libre.
Sur France Inter à 16h04, bientôt. Tout de suite, c'est Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Et
avec
vous, Maxime Debs, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce 1er mai, après la Carmagnole chez Daniel Mermet, il y a quelques minutes. Voici un autre chant révolutionnaire, c'est tiré de la 3e symphonie dite le 1er mai justement de Dmitri Chostakovitch, avec un texte assez musclé de Semyon Kirsanov. Le 1er mai, voilà, il a jeté une lueur sur le passé, l'étincelle est devenue feu, les flammes ont embrasé les forêts par l'oreille des sapins attristés, les forêts écoutent le bruissement des voix, des premières réunions ouvrières, le bruissement des voix. C'est la première ligne de mai qui, avec feu, regarde l'avenir dans les yeux. Notre 1er mai, brûlant du sifflement des balles, serrant baïonnettes et pistolets, a pris le palais du Tsar. La chute du palais du Tsar, c'est aussi l'aurore de mai qui marche, brûlant de la couleur des étendards.